Salam alaikum, bienvenue sur Muslim Makers, le podcast pour t'inspirer des acteurs musulmans de notre communauté, apprendre de leurs expériences et développer ton potentiel.
Parfois je me dis, j'ai envie de quelque chose, et je me dis ouais mais non, mais qu'est-ce qu'ils vont penser, peut-être qu'ils vont pas vouloir, peut-être qu'ils vont me dire de revenir l'année prochaine ou quoi. Et le problème c'est qu'on se met du coup dans une configuration où... on ne pourra plus rien demander, en fait, parce qu'on va avoir peur de la réponse de la personne.
Tu peux suivre les dernières informations du podcast en t'abonnant à la newsletter, au compte Instagram Muslim Makers et en rejoignant le groupe Telegram. Tous les liens sont en description. Bonne écoute. Salam alaikum wa rahmatullah, Elias.
Alaikum salam.
Ça va?
Merci beaucoup pour ton invitation, ça va, super.
Ah, merci à toi, d'habitude c'est moi qui cherche, là, tu m'as contacté. Alhamdoulilah.
Bah super, en plus on est dans le même domaine, donc c'est ce que je
t'ai dit. Ah oui, c'est ça, je me suis dit, en plus, je n'ai pas fait de podcast avec un data scientist ou un expert en data ou en IA.
Donc c'est l'occasion. C'est une anomalie qu'on ne se connaisse pas.
Ouais, écoute, Yes, c'est un grand plaisir de t'accueillir aujourd'hui dans le podcast Muslim Makers. Ce que je te propose pour commencer, ce que je propose à tous mes invités, c'est de nous faire une petite présentation. Qui tu es, d'où tu viens, dans quelle ville tu vis?
Ok, super. Alors, moi, je m'appelle Ilyas Talbi. J'ai 23 ans. Je suis né à Bondy dans le 93 et j'ai grandi à Aulnay-sous-Bois. C'est la ville où je vis actuellement. Niveau études, je suis passé par une classe préparatoire, donc maths physique classique. J'ai intégré ensuite l'Institut de statistique de l'Université de Paris. C'est une école dans les locaux du PMC. Et je suis diplômé de cette école en ingénierie statistique et en data science et de l'UPMC. Maintenant, c'est Sorbonne Université en mathématiques appliquées. Donc, j'ai un parcours assez théorique. Je suis passé aussi par l'ESSEC, où j'ai étudié un peu de stratégie et management pour un peu compléter mon éducation technique et avoir un peu les bases du business, parce que c'est ce que je voulais faire. Et je suis aussi l'auteur de La Revue IA, qui est devenue au fil des années un peu une des références, en tout cas françaises, sur l'intelligence artificielle et sur la data. Donc j'en suis très fier. Et actuellement, je travaille en tant que professeur d'algorithmique dans une école d'ingénieurs à Paris. Et je suis fondateur de ma propre startup. On travaille autour de la boxe. On pourra en parler plus en longueur au fil du podcast.
Tu as quel âge déjà?
23 ans.
Machallah. Machallah. C'est beaucoup de choses à 23 ans. Hein. On va revenir un peu sur tout ça. Du coup, tu as grandi, tu me disais, donc à Aulnay-sous-Bois, la ville où tu es actuellement. Qu'est-ce qui t'a poussé un peu à t'orienter vers le métier de la data?
En fait, j'étais depuis la première terminale, j'étais plutôt bon en maths et moins bon dans les autres matières. Donc, c'était un peu aussi un choix par rapport à ce que je pouvais faire. Ouais. Et je me suis dit aussi que les maths, c'était un domaine qui permettait de rester un peu ouvert sur plusieurs domaines. Donc ça m'intéressait aussi. Et après, c'était un peu par opportunisme. Enfin, j'ai découvert les statistiques. Et j'ai vu que c'était intéressant d'un point de vue technique, déjà, ça me passionnait. Et d'un point de vue débouché, c'est aussi un domaine qui est infini, en fait. Ouais. Et pourquoi la data science? C'est tout simplement parce que la data science, on peut l'appliquer à énormément de domaines, du sport au juridique, en passant par le médical. Et donc, moi, ça m'intéressait de pouvoir un peu switcher entre les industries comme ça. Demain, je veux travailler dans l'automobile, je pourrais être data scientist à Renault. Ouais. Je veux travailler dans le médical, choisir un hôpital où je peux être data scientist. Enfin, c'est un peu ça qui m'intéressait. Et moi, j'ai commencé par le domaine du sport. C'est un rêve de gosse, un peu, de pouvoir allier la passion et le travail. Donc, j'ai réussi à le faire et j'étais très content. Mmh. En fait, j'ai fait mon stage de fin d'études avec l'équipe de France Olympique de boxe dans les locaux de l'INSEP.
Tu as fait de la boxe ou je fais de la boxe?
Non, alors à la base, j'étais judoka. Mais ensuite, comme j'ai travaillé avec l'équipe de France, mmh, je me suis dit qu'il fallait quand même que je me mette à la boxe. Donc, je me suis mis à m'entraîner un petit peu dans la boxe. Après, il y a eu le Covid, tout ça, mais donc j'ai repris que très récemment. Et donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on travaillait sur de l'estimation de pose humaine. C'est une méthode assez poussée de vision par ordinateur qui permet de détecter à partir de la caméra les positions exactes des articulations du corps de la personne. Et donc, à partir de ces données-là, on a une infinité de choses qu'on peut analyser. Donc, on a la posture des boxeurs. Ça nous permet de détecter le type de coup porté, de détecter si les gestes sont bien effectués, etc. Enfin, c'est infini.
Impressionnant. Ok, bah c'est cool. Tu peux décrire rapidement c'est quoi la data science pour public un peu qui n'y connaît rien ou qui a juste entendu parler de big data, data science, mais qui ne comprend pas trop ce que c'est?
Ouais, bien sûr. Alors, en fait, faut que je replace un petit peu le contexte d'abord. On est dans un monde complètement numérique. Les échanges de données sont infinis. Chaque jour, il y a des dizaines de milliards, enfin de milliards de gigas qui sont transmis entre les personnes via les réseaux sociaux, via Internet. Et donc, ces données-là, clairement, c'est une opportunité pour les entreprises qui les possèdent. Et l'idée du data scientist, son travail, ça va être de transformer des données brutes en insight, en choses concrètes, en moyens pour prendre des décisions en fait sur les avancées d'une entreprise. Typiquement, les grands groupes. Comme les réseaux sociaux, Facebook, Netflix ou TikTok, etc. Leur objectif, c'est de garder le plus possible leurs utilisateurs en haleine. Et donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont analyser les données de ces personnes-là pour savoir quel type de contenu les intéresse le plus. Et à partir de ça, leur proposer le contenu qui va les garder occupés pendant toute la journée. C'est pour ça que c'est pas étonnant si on. Quand on va sur les réseaux sociaux, on y passe des heures. C'est vraiment qu'il y a des algos derrière qui tournent à
Ouais.
partir de la donnée qui est créée pour vraiment vous garder occupé le plus
Ouais.
possible.
Ça, c'est un cas d'étude, hein. C'est pas le plus
Ouais,
apprécié, on va
exactement.
dire. Pas ce qu'on aime le plus,
Ouais,
mais il y a
exactement.
des centaines de cas d'études qui sont. Enfin, ça dépend ce qu'on va en faire. Hein. Au final, on peut en faire ce qu'on veut.
Oui, voilà, c'est ça. C'est que c'est toujours de l'idée, c'est toujours de transformer des données. En décision ou en probabilité. Enfin dans le cas de Facebook, c'est la probabilité qu'on aime un poste. Dans le cas de la boxe, par exemple, c'est la probabilité qu'un boxeur va donner un uppercut plutôt qu'un crochet ou quoi, enfin, pour suivre un petit peu le fil du combat en direct.
Ouais.
Donc à chaque fois, c'est des données qu'on transforme pour avoir des métriques et ces métriques-là vont nous permettre de prendre des décisions.
Ok, cool, je pense que c'est clair. Pour toi, c'est un domaine qui était pas qui est assez nouveau en fait, la science. Est-ce que c'était quelque chose que les gens comprenaient autour de toi, ce que tu voulais faire ou ce que tu faisais?
Au début, pas du tout. Pas du tout, parce que quand je me suis lancé, c'était vraiment le début. C'est le début de ces choses-là, de la data science, de l'intelligence artificielle. Enfin, pas le début, mais je veux dire le début pour les entreprises. D'un point de vue du business, c'était le moment où les entreprises commençaient à l'adopter massivement. Et moi-même, pour être honnête, il y avait des choses que je ne comprenais pas bien, mais c'était un domaine qui m'intéressait, dans lequel je voulais aller plus loin. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais lancé la revue IA. C'était un peu aussi parce que dans les médias mainstream, c'était un peu un domaine qui était décrit comme ouais, c'était les IA qui vont prendre le contrôle de la planète et dominer le
Ouais,
monde. C'était soit ça, soit ce
Terminator.
discours-là. Voilà, exactement. Soit le discours du chef d'entreprise pour qui l'intelligence artificielle et la data, c'était une baguette magique avec laquelle il pouvait faire ce qu'il veut. Et donc je savais en tout cas ce que l'IA n'était pas. Et je me suis dit, bon, je peux commencer à écrire des choses par rapport à ça.
Ouais.
Et donc j'ai commencé à écrire mes articles sur le sujet. Et
Ok.
c'est
Tout
aussi là que
seul.
j'ai appris. Ouais, tout seul au début. Après, il y a des amis qui étaient intéressés, donc de temps en temps, qui contribuent un petit peu sur
Je
le
t'ai dit,
site.
ok, je vais écrire sur le sujet, tu lances, tu achètes un nom de domaine, tu crées ton site et tu commences à écrire des articles dessus.
Voilà, exactement.
Toujours
Exactement.
étudiant.
C'était ouais, toujours étudiant. C'était un soir de Ramadan. Juste une
Ouais.
discussion avec mon père. Je m'ennuyais un petit peu. L'été commençait à approcher. Je voulais faire quelque chose. Et je me suis dit, vas-y, je vais me lancer sur ça. Au début, ça s'appelait apprentissage statistique, donc
Ouais.
très théorique toujours. Et après, j'ai changé un peu le branding, je l'ai appelé la revue IA. Et c'est parti. Vraiment, l'idée est venue rapidement et en 30 minutes, il y avait le premier article qui était déjà en train d'être écrit.
Ouais.
Voilà.
C'est cool.
Et c'est vraiment là que j'ai pris conscience de l'immensité en fait, du domaine. J'ai pu assister à pas mal de conférences en lien avec ce domaine-là. J'ai rencontré des gens, tout ça. Et donc là, c'était vraiment, j'avais confirmé que c'était ça que je voulais faire.
Donc, ça a offert des opportunités, cette revue en ligne.
Oui, ça m'a offert beaucoup d'opportunités. Parce qu'en fait, même si j'étais étudiant à l'époque, le fait que j'écrive des articles, ça a changé vraiment complètement la vision des. En tout cas, quand on va à une conférence avec un pass presse, par exemple, et qu'on dit qu'on est auteur, même si on est blogueur et même si on ne fait pas beaucoup de vues, juste le simple fait d'écrire des articles, ça change complètement parce que j'étais étudiant à la base.
Ouais.
J'ai assisté à une ou deux conférences en tant qu'étudiant et honnêtement, c'est pas très drôle. Enfin, souvent, on va un peu vous négliger ou quoi.
Ouais,
Parce que bon, c'est
pas trop
sûr que les gens
attention.
vont chercher. Voilà, les gens vont vouloir faire du business dans ces conférences-là, donc ils n'ont pas trop le temps à consacrer à des étudiants. Par contre, quand on vient en tant qu'auteur d'une revue en ligne, voilà, ça change
Un peu
tout.
comme un critique gastronomique, on veut te faire
Voilà,
plaisir.
exactement. Exactement. Et du coup, ça m'a permis d'assister à des conférences à San Francisco ou à New York.
Ou tu es allé par
Alors.
toi-même ou on t'a invité?
En tout cas, on payait l'entrée et donc ensuite j'y allais par moi-même. C'était
Ok.
moi qui devais prendre en charge
D'accord.
l'avion et le logement. Mais bon, en tant qu'étudiant, je n'aurais jamais eu accès à ces conférences-là. Donc
Ouais.
c'est parfait. On m'avait invité à une soirée networking dans le stade de l'équipe de San Francisco, l'équipe de football
Wow.
américain.
Ok.
Donc on a accès quand même à des privilèges qui sont énormes.
Ok.
Enfin, honnêtement, je n'avais pas énormément de vues à l'époque. Je devais avoir peut-être une trentaine de visiteurs par jour.
Alors que maintenant?
Et maintenant, ça fait à peu près fois 10. Je peux
Ok.
multiplier ça par 10. Voilà, donc.
Inch'Allah.
Ouais, donc là,
Cool.
ça n'a rien à voir et les opportunités sont plus intéressantes, simplement que j'ai plus énormément de temps pour voyager un peu partout autour des conférences, mais je serai au salon VivaTech la semaine prochaine en tant que membre
Ah,
média. Donc...
d'accord, donc tu as un billet gratuit pour Vivatech.
Ouais, exactement.
Cool. Vivatech, c'est une des plus grosses conférences par rapport au. C'est quoi? C'est par rapport aux startups.
Ouais, c'est vraiment sur la tech en
La
général.
tech, ouais.
Il y a énormément d'entreprises françaises et internationales d'ailleurs qui se réunissent là-bas. Et le fait d'avoir une accréditation presse pour cette conférence, c'est quand même un symbole que la revue IA a bien progressé. J'étais assez
C'est cool.
content d'apprendre la nouvelle.
D'accord. Donc tu as ça, tu as la startup, tu parlais de la startup tout à l'heure, donc tu viens de lancer récemment, enfin tu viens, ça fait plusieurs mois que tu y travailles ou à un certain moment.
Ouais, ça fait plusieurs mois qu'on travaille dessus. En fait, c'est parti d'une rencontre avec ce qui deviendra par le futur mon associé. On s'est rencontrés en décembre à Station F via une amie qu'on avait en commun, Samar Raloussi, je crois que tu la connais en plus.
Ouais.
Elle nous a mis en contact. Moi, j'avais travaillé avec l'équipe de France de boxe avant sur des problématiques d'intelligence artificielle. Et Yama, donc mon associé, est boxeur, enfin, fait de la boxe depuis une vingtaine d'années. Il est coach de boxe actuellement, il donne des cours au Trocadéro. Donc lui, il est originaire d'Afghanistan, mais il a grandi aux Pays-Bas. Il est venu à Paris un peu dans le cadre des JO de Paris pour développer son projet. Et tout de suite, on a eu un bon feeling. Son projet m'intéressait. Je me suis dit, vas-y, on le fait ensemble. Et on s'est rencontrés. Donc, dès le premier jour, on a commencé à travailler alors qu'on ne se connaissait pas. On s'est dit, bah,
OK.
vas-y, on va commencer à travailler. On va voir jusqu'où on peut aller. La première chose qu'on a faite, c'est le dossier de demande de subvention pour la BPI.
OK.
Il y a un. Donc, il y a un programme de la BPI qui s'appelle French Tech Tremplin pour aider un peu
D'accord.
les jeunes de banlieue à lancer leur projet. Et donc,
Donc, c'est
j'ai postulé pour
une sorte
ça.
de don ou de...
Ouais,
Ouais,
c'est une
c'est
subvention.
une subvention, ouais. D'accord.
Voilà. On l'a fait un peu à l'arrache, pour être honnête, parce que c'était la première chose qu'on a faite. On s'est dit, bon, vas-y, on voit où ça peut nous mener. En février, on a eu la réponse, on était pris. Donc
Cool.
ils ont accepté de nous donner une subvention de c'est une subvention de 40 000 euros avec une incubation à l'école polytechnique. Donc c'était
Génial, ça.
vraiment
Un rêve d'enfant.
ouais, voilà, exactement, c'était parfait. Et donc là, bah, ça fait ouais, 1 mois et demi là qu'on est, enfin 2 mois même qu'on est à l'école polytechnique, qu'on travaille sur le projet avec Yama. Pour en dire plus sur le projet, alors initialement on devait développer un sac de frappe équipé de capteurs qui permet de récupérer les données d'entraînement de l'utilisateur. Et on voulait le faire à partir de pneus de voitures usagées. Donc il y avait une
OK.
dimension un peu écologique et responsable quoi, sur les matériaux qui étaient utilisés. Et l'objectif, c'était de viser les collectivités, donc pour proposer le sac de frappe en libre accès à l'extérieur, dans les villes, pouvoir récupérer les données d'entraînement de la personne et proposer un peu des challenges, des challenges entre amis pour juste voir qui est le meilleur boxeur, tout ça, pour
Celui qui met la plus
pouvoir.
grosse frappe,
Voilà,
comme les
exactement.
jeux tu
Voilà,
retrouves
c'est
là.
voilà la version simpliste, c'est les jeux dans les fêtes foraines. Les données qu'on récolte, c'est la puissance du coup, le type de coup, la cadence de frappe, le temps de réaction, etc. Et à partir de là, on veut proposer une expérience un peu plus ludique et interactive de la boxe. Mais sauf que maintenant, on est peut-être en train de pivoter un petit peu pour viser plutôt les entreprises, les salles de sport, les hôtels, etc.
OK.
C'est des marchés qui sont plus accessibles que les collectivités. Je ne sais
D'accord.
pas si tu as déjà essayé de vendre quelque chose à un maire, en tout cas en
Non.
France. C'est
Compliqué.
très, très, ouais, très compliqué.
Ouais.
Alors qu'avec une entreprise, c'est beaucoup plus simple. C'est plus simple dans le sens où l'entreprise va pas passer par va pas prendre de raccourcis ou quoi. Si c'est oui, c'est oui. Si c'est non, c'est non. Donc comme ça, on est
Ouais.
fixé dès le premier rendez-vous. Alors qu'avec les collectivités sont toujours intéressées. Après, pour le paiement, tu sais pas trop si
Ouais.
ils sont toujours chauds ou pas.
Ouais,
Voilà. C'est pour ça qu'en tout cas, en tant que jeune startup, c'est plus simple d'essayer de toucher le marché des entreprises et des hôtels. Voilà.
cool. Là, quand on regarde ton parcours, on se dit, machallah, 23 ans, tu as fait beaucoup de choses, tu as créé ta propre revue, ta start-up, tu es enseignant en temps partiel, etc. Donc, est-ce que ça a été un long fleuve tranquille ou c'était vraiment difficile?
Alors, en soi, c'était plutôt un long fleuve tranquille.
Ah.
Mais après, il y a des challenges à certains moments, forcément. Mais c'est juste lié au fait que parfois, je suis obstiné, il y a quelque chose que je veux, et c'est cette chose-là et pas autre chose. Donc, je me suis fixé un objectif et je veux l'atteindre. Et parfois, c'est un peu, moralement, ça peut être un peu compliqué à gérer. Typiquement, quand je finis donc, je sais pas, enfin, mon année de bac, mon année de terminale, mon objectif, c'était d'aller en prépa. Sauf que le problème, c'est que j'étais bon en maths, et c'est tout. Et
Ouais.
les
Alors
prépas
qu'en prépa, ils
aujourd'hui,
regardent un peu tout.
voilà,
Même
c'est
être bon en
ça, ils ont besoin
français
de
et en histoire-géo.
quelqu'un, exactement, ils ont besoin de quelqu'un excellent partout. Et donc, j'ai pas été pris, j'avais fait c'était APB à l'époque, c'était pas Parcoursup encore. J'avais fait donc tous mes vœux ont été refusés pour la prépa. J'ai commencé à pendant tout l'été, j'ai appelé les prépas de partout en France. Au début, je
Ouais.
voulais rester à Paris, mais Après, ça n'avait plus de sens de vouloir rester à
Foutu pour
Paris parce
foutu.
que,
Allez.
voilà, c'est ça. Je me suis dit, je vais appeler toutes les prépas de France, s'il le faut.
Ouais.
Donc, j'ai appelé, j'ai envoyé des mails. En été, c'est compliqué en plus parce qu'ils mettent du
Il
temps à
ferme, ouais.
répondre. Voilà, donc c'était super stressant comme été. Et j'ai eu une réponse vers la fin de l'été pour une
Ouais.
prépa à Arras. Et donc,
D'accord. Ah,
je
parce que
suis
ça
parti.
rouvre en général, c'est les on va dire ceux qui sont sur liste d'attente, ce genre de choses, ils préviennent, ils
Voilà.
annoncent fin août, quoi, quand très très tard, ouais.
Voilà, exactement. Exactement. Et donc, je me retrouve à. J'avais 17 ans encore à l'époque. Je me retrouve à 1h30 de chez moi. C'est pas grand-chose quand je le vois aujourd'hui, mais à l'époque, c'était quelque chose. Je devais vivre tout seul, m'occuper de mes affaires, me
Ouais, c'était
réveiller tout
où?
seul le matin. C'était à Arras, pas
Ok.
très loin de Lille, dans le nord.
D'accord, ok.
Et aussi, on ne s'en rend pas compte, mais c'est qu'à 1h30 de route, mais il y a beaucoup de choses qui changent. On passe d'une
Ouais.
grande ville à une ville moyenne où on ne connaît personne, enfin, on doit tout refaire limite. Il n'y a plus les potes, il n'y a plus ces choses-là. Mais donc, je me suis installé, et, enfin, ça s'est bien passé. J'avais de bons résultats et donc ça m'a permis de revenir l'année d'après dans une prépa à Paris.
Ah
Et
d'accord, parce que
ensuite,
ouais,
pareil.
t'as... Bah, du coup, ouais, c'est cool, je voulais juste m'arrêter sur ça. En fait, c'est quelque chose que pas beaucoup de gens savent, que tu peux, en fait, c'est possible d'appeler, d'être obstiné, de demander,
Oui,
même si on
non.
a été refusé. C'est un conseil vraiment intéressant, ça.
Ouais, non, c'est sûr, c'est sûr, c'est toujours intéressant. Moi, j'avais un problème. D'ailleurs, c'est un conseil que mon père me donne toujours. Il me dit, arrête de faire les questions et les réponses tout seul. C'est que parfois, je me dis, j'ai envie de quelque chose. Et je me dis, ouais, mais non, mais qu'est-ce qu'ils vont penser? Peut-être qu'ils ne vont pas vouloir. Peut-être qu'ils vont me dire de revenir l'année prochaine ou quoi. Et le problème, c'est qu'on se met du coup dans une configuration où on ne pourra plus rien demander, en fait, parce que on va avoir peur de la réponse de la personne. Il faut
Ouais.
raisonner, en fait, au pire des cas. Au pire des cas, je vais demander. Je veux aller à Harvard. Je veux aller à Harvard, mais je sais pas, les candidatures sont fermées ou quoi. Il y a deux réactions dans cette situation-là. Tu peux juste dire, bon, bah, finalement, j'attendrai l'année prochaine. Ou tu peux te dire, bah, j'envoie un email, j'ai rien à perdre. J'envoie un email avec ma candidature et on ne sait jamais. Peut-être
Advienne que
que,
pourra.
voilà, c'est ça. Peut-être que la personne va le voir. Peut-être que finalement, mon dossier va l'intéresser et peut-être qu'elle voudra en savoir plus ou quoi. Mais c'est sûr que si tu n'envoies pas le mail, bah, tu parleras jamais avec personne. Donc, autant avoir un peu ce culot, en fait, de demander, d'oser. C'est ce que j'ai fait aussi avec la revue IA. Au début, pour moi, être invité à une conférence dans la Silicon Valley, c'était impossible. Enfin, j'aurais même pas demandé, j'aurais même pas envoyé d'email, tu vois.
Ouais.
Et il suffisait. Ouais, c'est un jour, j'ai envoyé un email pour demander et la personne a accepté. Et à partir de là, je me suis dit, maintenant, dès que je veux quelque chose, au minimum, je demande.
Ouais.
Voilà, et après, si ça ne marche pas, bah, tant pis. Mais au moins, moi, j'aurais fait ma partie du travail, quoi. J'aurais fait en sorte que la personne, au moins, me considère, quoi.
Cool. Non, mais c'est un très bon conseil. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire, c'est pas se mettre de barrières. Et puis, aller au culot, comme tu dis, on n'a rien à perdre. Au pire des cas, qu'est-ce qui peut se passer? On va nous dire non.
Voilà, exactement. C'est pas
C'est pas un grand prix à payer.
dramatique. Et souvent, c'est les gens quand tu as du culot et quand tu oses demander ce que tu veux, souvent les gens le prennent assez bien, le prennent positivement et donc c'est un bon signal que tu envoies. D'ailleurs, beaucoup d'entreprises aiment les candidatures spontanées. C'est parce que ça montre que la personne est motivée en fait. Tu candidates pas par rapport à une offre, mais tu candidates parce que c'est l'entreprise qui te plaît, c'est parce que c'est là-bas que tu veux aller.
Ouais. Oh, c'est un très bon conseil, Malaklofik. Je vais te poser une question par rapport à. Je vois sur ton site, la revue IA.fr, tu as un onglet éthique.
Ouais.
C'est une problématique, je pense, qui commence à être. On peut se poser des questions, même en tant que musulman parfois. C'est quoi l'éthique de l'IA?
Ouais, alors c'est il y a plusieurs sujets par rapport à l'éthique de l'IA. C'est que d'abord, tu as les sujets un peu classiques. C'est que tu as beaucoup d'IA qui sont devenues tellement fortes et qui font leur travail tellement bien que ça pose problème niveau emploi. C'est qu'il y a
Ouais.
beaucoup de personnes qui vont être menacées dans leur travail. Et ça c'était un sujet qui se sur le enfin, que je traitais pas initialement parce que pour moi quand on est quand enfin pour moi il n'y avait pas de possibilité que l'IA remplace des personnes ou quoi. Mais ensuite j'ai parlé avec beaucoup d'entreprises avec beaucoup de travailleurs tout ça et je me suis rendu compte que c'était vraiment une vraie menace
Par exemple,
pour certains
un
emplois.
exemple concret, Amazon, par exemple, tous les robots qui vont ramasser tous les colis, les poser, les ranger,
Voilà,
etc.
exactement. Exactement. Et aujourd'hui, dans les pizzerias, par exemple, tu as des IA qui peuvent faire la pizza à la place du pizzaïolo. À Paris, il y a une pizzeria comme ça qui travaille, enfin, qui est complètement automatique. Et donc, la menace aujourd'hui est réelle. Mais pour moi, c'est toujours pas la menace principale. La menace principale, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est avec tous les réseaux sociaux, tout ça. Souvent, on a l'impression que le danger des IA, c'est Terminator et les robots tueurs, mais le danger des IA est vraiment présent aujourd'hui. Quand on voit les problèmes de fixation, par exemple sur YouTube, problème de fixation, c'est quand on va regarder un type de vidéo. Et ça va nous garder en fait sur cette catégorie de vidéos jusqu'à en fait devenir un peu extrémiste sur ce point-là. Donc je prends toujours les exemples en politique. Si au début tu commences par regarder des vidéos de droite ou de gauche, bah, l'IA va commencer à te proposer de plus en plus de vidéos de ton camp jusqu'à un moment où tu vas atteindre un point de
Ton
non-retour en
monde, en
fait
fait,
où...
c'est que la gauche, par exemple, où ça va être
Voilà,
que si
exactement.
tu auras des vidéos islamiques, que des vidéos islamiques ou ce genre de choses.
Voilà, c'est exactement ça. Et je l'ai vu ça avec quand j'ai ouvert le Netflix d'une de mes sœurs. Elle aime bien les K-dramas, c'est les séries, enfin les films et séries coréennes. Et en fait, bah, tu vois, sur tout son Netflix, il n'y a que ça. C'est qu'elle a, elle a, enfin, ça y est, Netflix l'a bloqué dans ce domaine-là. Et c'est difficile d'en sortir. Par contre, Netflix fait quelque chose d'assez intéressant, qui est vraiment une révolution d'un point de vue éthique des algos, mais qui est passée inaperçue. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que les gens n'ont pas saisi que c'était une révolution. C'est que maintenant, tu as un bouton lecture aléatoire. Et ça, en fait, ça te permet de sortir un peu de ton monde et de regarder quelque chose de différent qui va peut-être te plaire. Et du coup, Netflix va un peu revoir l'algo. Puisque sur YouTube, tu n'as pas ça. Et d'ailleurs, YouTube a été puni par... a été puni par rapport à ça, par rapport au fait que son algorithme donc enferme les gens sur certains sujets. Aujourd'hui, pareil sur les réseaux sociaux, un problème qui est peut-être encore plus inquiétant, c'est que tu as des entreprises comme Facebook qui savent exactement, avec les données qu'ils ont, qui savent exactement ce que tu aimes, ce qui te fait peur, ce qui te rend triste. Et du coup, par rapport à ça, avec ces données-là, ils peuvent te proposer du contenu qui va influencer un peu tes émotions. Et ça fait vraiment peur. Traditionnellement, Facebook, ils avaient que le bouton like sur les posts. Et maintenant, tu as like, tu as sourire, tu as soutien, tu as pleurs, en colère,
Même
tout
sur
ça.
LinkedIn, t'as à peu près ça.
Voilà. Et donc ça, en fait, c'est que en utilisant ces emojis-là, on les aide à entraîner leurs algorithmes. Donc, il y a une partie qui est un peu moins grave, qui est qu'on les aide à entraîner leurs algorithmes pour détecter l'émotion d'un poste. Mais par contre, on les aide à entraîner leur algorithme qui permet de nous proposer du contenu. Et donc, s'ils voient qu'il y a un certain type de contenu qui va créer des émotions fortes chez nous, comme la colère, bah souvent, ils vont essayer d'insister sur ces postes-là. Parce que toujours, l'objectif, c'est de te laisser à fond au maximum en fait sur
Créer
leur
de
application.
l'engagement, créer des commentaires, créer des interactions.
Voilà, exactement. Donc s'ils voient que tu es en colère à chaque fois que tu vois un certain type de poste, bah là ils vont se régaler parce qu'ils savent qu'il va y avoir des commentaires que tu vas commenter, que tu
Tu vas
vas
rester plus longtemps, tu vas
partager.
revenir, regarder.
Voilà, exactement. Et donc ça, c'est vraiment le vrai danger des intelligences artificielles. Et aujourd'hui, il y a un autre gros sujet C'est ce qu'on appelle l'explicabilité
Ouais.
des modèles d'intelligence artificielle. Le problème, c'est que on entraîne des modèles, donc des réseaux de neurones. C'est un peu le... Je vais pas parler de l'aspect théorique maintenant, mais en gros, c'est l'objet mathématique qui est utilisé pour entraîner des IA, enfin des modèles de deep learning. Et le problème, c'est que ces modèles sont un peu des boîtes noires opaques qu'on n'arrive pas toujours à comprendre. Et dans des domaines comme le médical, c'est important de comprendre ce que l'IA nous dit que la personne a un diagnostic, un cancer, par exemple. On
Ouais.
doit savoir pourquoi est-ce que l'IA
Donc la
diagnostique un
plupart des
cancer.
modèles vont juste dire cette personne-là a 95% de chances d'avoir tel cancer. Mais ce n'est pas assez
Voilà.
développé pour te dire directement parce que A, B, C, D.
Voilà, exactement. Et donc ça, c'est vraiment la grosse inquiétude, en fait, sur ces sujets-là.
OK. Et du coup, il y a un autre domaine, un domaine qui est assez intéressant, c'est le domaine de l'explicabilité, tu viens d'en parler. C'est pour essayer de comprendre, d'ouvrir un peu cette boîte noire et de comprendre derrière pourquoi l'IA a pris telle ou telle décision. Et ça, en soi, c'est un problème, tu dis, ou tu disais que c'est quelque chose de bien?
Justement, c'est quelque chose de bien que ce soit un gros sujet aujourd'hui, parce que initialement, ce n'était pas quelque chose qui intéressait beaucoup les entreprises, mais aujourd'hui, c'est vraiment important d'avoir en fait une explication. Et sur des problématiques comme la vision par ordinateur, donc tout ce qui est détection d'objets, reconnaissance faciale, etc.,
Ouais.
on a des modèles qui commencent à être assez intéressants. Donc, au lieu de juste, au lieu Enfin, l'IA va plus seulement dire, tiens, sur cette image, il y a un chat. Elle va dire, sur cette image, je vois un chat parce que j'ai détecté les moustaches, parce que j'ai détecté qu'il y avait quatre pattes, etc. Au moins donner ces critères-là, en fait, d'explication, quoi.
Ouais. On parle des biais des modèles parfois, qui puis
Ouais.
avoir du même aux États-Unis notamment, il y a eu quelques scandales, il me semble, par rapport à ça.
Ouais, il y a eu des gros scandales, notamment avec Amazon, qui avait en fait entraîné un modèle de recrutement dans lequel il y avait en fait, parce que historiquement Amazon recrutait quasiment que des hommes, et donc le modèle de deep learning a compris que si Amazon recrutait que des hommes, c'est qu'il fallait recruter que des hommes, et donc ils sont arrivés à, enfin ils ont développé un algorithme qui éliminait automatiquement tous les CV des femmes. Et
Juste parce que
donc,
c'était des femmes, du coup.
voilà, exactement. Et donc là, dans ce cas-là, si on a un minimum d'explicabilité, au moins on aurait pu détecter le problème. Tu vois, au moins on aurait pu dire, OK, bah, cette candidate, je l'ai éliminée parce que c'est une femme. Et là, ça doit faire tiquer les opérateurs de l'algo pour modifier cette problématique-là. Aujourd'hui, ce qui est bien, c'est qu'il y a une prise de conscience par rapport à ça. Et la plupart des data scientists ont compris que c'était leur responsabilité, en fait, de s'assurer que les données qu'ils utilisent ne sont pas biaisées. Et donc, que le modèle sera éthiquement compatible, on va dire. Mais bon, il y a toujours des accidents. Parfois, c'est drôle. Comme dans le championnat écossais, ils ont entraîné un modèle d'intelligence artificielle pour calibrer automatiquement la caméra sur le ballon. Et sauf que le modèle, à certains moments, confondait le ballon avec le crâne chauve de l'arbitre de touche. Et du coup, c'était assez drôle. Enfin, dans ce cas-là, ça va, on peut corriger. Il y a juste quelques spectateurs qui sont mécontents, mais bon. C'est pas un drame, c'est pas un drame, on va
Ouais.
dire. Par contre, dans le cas de l'algo d'Amazon, forcément, c'est beaucoup plus problématique. D'ailleurs, j'ai écrit un article sur ce sujet qui recense un peu, qui recense cinq gros fails de l'intelligence artificielle. Je pense aussi à un bot Twitter qui avait été développé par Microsoft pour interagir avec les personnes. Et à force de se faire troller par les gens, il y avait des gens qui... Parce que les gens entraînent aussi l'algo. Et donc, à force de se faire troller et de recevoir des messages un peu racistes ou quoi, bah, le bot lui-même est devenu raciste et a commencé à poster des choses un peu obscènes, quoi, sur Twitter.
Ouais. Il y avait aussi à un moment donné, ils avaient créé un robot, je crois que c'était Google, Google Mind, je crois, la branche un peu qui teste des trucs
Ouais,
un peu
DeepMind.
avancés, DeepMind, ouais. Et ils avaient créé un robot, je crois, pour. Enfin, ils avaient mis deux robots, enfin, face à face, entre guillemets, pour les entraîner à communiquer entre eux. Et au bout d'un moment, ils communiquaient tout seuls et ils ont dû les débrancher parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils se disaient, en fait.
Ouais, ils avaient inventé leur propre langage, en fait.
Ouais.
Après aussi, Google a un peu
Ça fait peur un peu quand
amplifié.
même.
Ouais, voilà, Google, ouais, et Google aussi a, je pense, amplifié volontairement aussi ça, juste pour faire un peu le buzz et pour que les gens parlent de l'histoire. Mais bon, en soi, c'est juste que à un certain point, il y a eu des problèmes. Enfin, c'est des problèmes qu'on peut corriger, quoi. C'est des problèmes mathématiques, hein, c'est vraiment ça qui ont fait que la langue a changé, quoi, au bout d'un moment. Mais c'est vrai que
On en
c'est un
rigole, mais
peu.
bon, ça fait peur quand même. Tu te dis s'ils arrivent à contrôler quelque chose, à se comprendre et à sortir du système.
Ça peut être inquiétant, mais bon, pour l'instant, en tout cas, on n'a pas.
En fait,
Ouais.
l'IA, c'est très développé au moment où on se parle, mais tout seul, ça ne fait pas grand-chose en fait. Ça, il y a besoin des gens derrière.
Voilà, vraiment, la crainte qu'on peut avoir, c'est que des modèles vraiment sophistiqués soient mis entre les mains de gens mal intentionnés. Dans ce cas-là, ça pourrait vraiment faire peur. Comme pour les deepfakes, en fait,
Ouais.
ou tous ces problèmes-là, ça,
Ouais,
par contre, ça peut.
donc les deepfakes, c'est quand on représente quelqu'un qui existe. Si on prend une vidéo où c'est pas la tête de quelqu'un, mais on remplace la tête, par exemple, d'une personne,
Voilà.
alors qu'elle est pas là du tout, elle a rien dit, on lui fait dire ce qu'elle a pas dit ou faire ce qu'elle a pas fait. Et
Voilà,
c'est de plus en
exactement.
plus sophistiqué, ça.
Ouais, et aujourd'hui, sur de l'audio, par exemple, il suffit d'à peu près 3 à 4 secondes d'enregistrement d'une personne pour pouvoir lui faire dire n'importe quoi.
C'est impressionnant.
Et 4 secondes d'enregistrement, c'est rien du tout, tu les trouves n'importe où.
Ouais.
Il suffit que tu appelles la personne au téléphone, tu récupères 5 secondes
Tu prends une vidéo YouTube ou
d'elle en
tu
train de
prends
parler.
un podcast
Voilà,
Muslim
et
Maker,
après,
ça y
tu.
est, on récupère
Voilà,
la voix.
exactement. Exactement. Donc ouais, ça c'est inquiétant pour le coup. Et donc sur l'autre gros problème éthique qui est d'actualité aujourd'hui, mais dont peu de gens parlent encore, je pense que ça va arriver petit à petit. Enfin, en soi, il y en a deux qui sont liés, donc je vais parler des deux. Donc c'est un problème environnemental. C'est qu'aujourd'hui, pour entraîner un modèle d'intelligence artificielle, tu consommes énormément d'électricité parce que les modèles sont entraînés sur des serveurs dans le cloud. Sauf que il n'y a rien qui est fait dans le cloud, quoi. C'est des
Ouais.
serveurs physiques qui
Ah, c'est
consomment de
pas dans les vrais nuages,
l'électricité.
quoi. Ouais. Il
Voilà,
y a
c'est
des
ça.
ordinateurs derrière.
Voilà. Et donc, il chauffe tellement qu'il y a besoin de beaucoup d'électricité pour pouvoir refroidir tout ça. Et ça pose problème. D'un point de vue environnemental, il y a des nouveaux modèles de deep learning qu'on appelle les transformers. Et l'entraînement d'un transformers d'à peu près 200 millions de paramètres consomme autant qu'une voiture américaine sur toute sa durée de vie. Et donc, c'est assez désastreux. D'ailleurs, ouais, c'était le sujet d'un post LinkedIn que j'ai fait vendredi. J'ai présenté un package, enfin une librairie Python qui permet de traquer un peu ses consommations de CO2 quand on entraîne un modèle de deep learning. Et ça, c'est vraiment un désastre environnemental. Il y a des solutions qui sont proposées qui permettraient d'entraîner des modèles avec moins de données. Parce que, en fait, ouais, voilà, c'est là aussi la limite des IA, c'est que on dit que l'apprentissage d'une machine se fait un peu comme l'apprentissage d'un enfant. Mais le truc, c'est que ce qu'on ne dit pas, c'est que l'enfant, pour comprendre ce qu'est une girafe, a besoin de deux images ou trois de girafes, et ensuite il peut extrapoler. L'IA, pour comprendre ce qu'est une girafe, j'exagère un peu, mais elle a besoin de milliers d'images de girafes, quoi.
Ouais,
Voilà, donc en
une
fait,
girafe
là.
debout, une girafe allongée, une girafe bébé, adulte, plusieurs couleurs, en noir et
Voilà, c'est
blanc.
ça.
Ouais.
C'est ça, dans différentes situations, tout ça. Donc,
En train de courir, en
c'est.
train de marcher.
Voilà.
Enfin, courir, genre galoper peut-être pour une girafe.
Ouais, exactement. Et donc, c'est un peu la limite qu'on a aujourd'hui. C'est pour ça que Yann LeCun travaille beaucoup sur des modèles d'apprentissage qui sont beaucoup moins gourmands en données. Et ce sujet-là en
Yann
appelle
Lequin,
un
c'est un
autre, c'est que.
des pionniers de l'IA. chercheur
Ouais,
français.
pardon, je l'ai pas présenté. Voilà, c'est un chercheur français qui est une des références internationales sur l'intelligence artificielle, qui travaille avec Facebook Research. L'organisation s'appelle FAIR. Et donc, le deuxième gros sujet qui est lié au premier, c'est que comme ces modèles ont besoin de beaucoup de données et ont besoin de beaucoup de capacités de calcul pour être vraiment fiables, bah, il y a un monopole en fait qui s'est installé par les entreprises, par les GAFAM, qui sont capables
Ouais.
aujourd'hui d'entraîner les meilleurs modèles sur des sujets comme le NLP, donc tout ce qui est traitement du langage, compréhension du langage, traduction automatique, etc. Il n'y a quasiment que ces grosses entreprises-là qui peuvent développer des choses vraiment nouvelles, parce qu'ils sont pas, ils sont capables d'entraîner leurs modèles avec des milliards des milliards de paramètres, avec des limites, enfin une infinité de données. Et du coup, forcément, ils ont un avantage
J'ai appris il y
sur
a
ça.
quelques années, pendant que je faisais, quand j'ai commencé à travailler, que les CAPTCHA là, de
Ouais.
Google, c'est les trucs qu'on clique pour dire, voilà, cocher toutes les images avec une voiture ou un feu rouge. En fait, ça permettait d'entraîner les modèles derrière, en fait. À chaque fois qu'on fait ça, eh bien, ça entraîne le modèle derrière. D'ailleurs, même des fois, quand
Ouais.
on se trompe, ça marche quand même. C'est pas tout le temps. Enfin, pas besoin tout le temps des bonnes réponses, ça marche quand même. C'est juste pour entraîner le
Ouais,
modèle.
voilà, c'est ça, c'est pour que tu les aides en fait à... Et même en fait, une fois que le modèle est entraîné, bah, ils ont besoin de toujours avoir plus de données. Et donc, c'est infini, quoi. Et voilà, en fait, quand tu résous un CAPTCHA, bah, ça alimente des bases de données immenses de Google pour entraîner leur modèle. Mais en fait, il n'y a pas que ça. C'est qu'aujourd'hui, quand tu publies une photo sur Insta ou quelque chose comme ça, avec une description, bah ça, c'est parfait pour eux. Parce que du coup, ils prennent la description d'un côté, ils prennent l'image de l'autre, et ça leur fait un dataset d'entraînement, des données d'entraînement pour des modèles. Et donc là, récemment, il y a OpenAI, qui est une grosse organisation de chercheurs en intelligence artificielle, qui a sorti un modèle qui s'appelle DALL-E 2. Ils avaient sorti DALL-E l'année dernière et là, ils ont sorti la deuxième version qui permet de générer n'importe quelle image à partir d'une description. Et c'est absolument bluffant. Tu peux aller regarder sur Instagram, vous tapez juste DALL-E OpenAI et les résultats qui sont proposés sont vraiment déconcertants. On peut générer n'importe quoi. Tu as juste
Ouais.
à laisser libre cours à ton imagination. Je crois, tous les jours, ils publient des exemples et je crois que ce matin, ils ont publié un exemple avec une planète en forme d'avocat et le modèle a dessiné une planète en forme
Et
d'avocat.
on peut tester, nous, écrire quelque chose et ça va.
Non, il faut, par contre, tu peux t'inscrire sur la liste d'attente pour avoir accès au modèle. Je l'ai fait moi il y a 2 semaines, j'ai toujours pas eu la réponse. Et donc ça permet de faire des tests, mais pour l'instant il le laisse, il le cloisonne vraiment parce que c'est d'un point de vue éthique, c'est vraiment une catastrophe en fait. Tu peux générer ce que tu veux, donc en fait
C'est
tu peux
impressionnant, je
dire
crois.
génère-moi avec les bonnes images, si j'ai assez d'images de toi. Je peux dire génère-moi Abdelrahman, je sais pas,
En
sur
train de
une
manger
plage.
une fraise à Bali.
Voilà, exactement. Voilà. Et donc ça, forcément, ça pose des problèmes. Et c'est pour ça qu'il laisse pas, enfin, il laisse le moins accès possible à ces modèles-là.
Ouais.
Ouais.
Il y a beaucoup de cas où on peut se dire ouais, ça peut vite. Puis il peut y avoir des cas qui sont vraiment négatifs pour nous, quoi. Notamment, moi, je pense
Ouais.
beaucoup à la Chine, par exemple. Ça, je prends un des exemples extrêmes. La Chine qui
Ouais.
contrôle vraiment sa population grâce aux données, où on doit, dans beaucoup de lieux, en fait, enfin, il y a des reconnaissances d'images un peu partout, des reconnaissances faciales. La Chine, je pense, c'est le pire cas d'étude. Hein.
Ouais, non, c'est assez inquiétant. En fait, de toute façon, l'intelligence artificielle, c'est ça, c'est que les modèles, quand ils sont utilisés de façon responsable, peuvent faire des choses super et être bénéfiques à toute l'humanité. Par contre, quand ils sont mis dans les mains des mauvaises personnes, bah, ça peut être assez dramatique, en fait. Bah, après, de toute façon, sur la reconnaissance faciale, Même l'Europe, qui pendant longtemps était vraiment opposée à la reconnaissance faciale, bah, aujourd'hui commence à se dire bah, finalement pourquoi pas. Il y a des débats qui se font un peu, notamment par rapport à ce qui s'est passé au Stade de France. Il y en a certains qui l'utilisent pour se dire bah, ouais, ça peut permettre de surveiller dans les stades, tout ça, je sais pas quoi. Et le problème, c'est que c'est vraiment une utilisation de l'intelligence artificielle qui c'est vraiment liberticide.
Ouais.
Donc,
Ouais,
ouais,
c'est
c'est
clair.
un peu.
Après, dans les bons exemples, moi j'ai découvert récemment, là, il y a quelques mois, une application pour apprendre le Coran ou réviser son Coran. Je sais pas si tu la
Ouais,
connais, ça s'appelle
je la
Tarotil.
connais, ouais. Je
C'est
la
assez cool,
connais.
je
Elle est
trouve.
vraiment
C'est vraiment
super.
cool. C'est vraiment génial. En fait,
Ouais.
bon, tu pourras la présenter mieux que moi, mais il y a une feature que j'ai pu tester d'ailleurs, où en fait, pour réviser son Coran, on récite son Coran. Et en fait, le texte apparaît pendant qu'on récite. Alors, si tu révises une page ou un verset, le texte apparaît en même temps qu'on récite. Et s'il y a une erreur, et ben, ça s'arrête. Et il y a
Voilà.
d'autres choses, mais c'est vraiment cool, je trouve.
Ouais, c'est vraiment une application qui est super. Et l'équipe qui l'a développée, vraiment très. C'est des gens qui sont vraiment très forts. Ils ont développé ça dans les labos du MIT aux États-Unis. Enfin, franchement, leur modèle aussi d'intelligence artificielle est vraiment bon. En fait, ce qu'ils ont fait pour récolter les données d'entraînement, c'est qu'ils avaient, avant de sortir l'application, ils avaient un système qui permettait un peu le Shazam pour le Coran. Et donc, tu récites et ça te dit c'est quel verset et quelle sourate. Donc, ça leur a permis de récolter un peu de données. Et sinon, ils avaient fait une interface sur leur site internet qui permettait aux gens de contribuer, en fait, à. Tu cliquais, tu proposais ton aide et ça te donnait quelques versets à réciter. C'est aussi pour rendre le modèle le plus généralisable possible. Parce que si tu fais ça qu'avec des récitations d'hommes, par exemple, les femmes ne pourront pas l'utiliser. S'il n'y a pas assez d'enfants, bah, pareil, les enfants, le modèle aura du mal à reconnaître les récitations de l'enfant. Et là, leur modèle est vraiment au point, je pense. La détection se fait vraiment super bien et ouais c'est honnêtement c'est vraiment ce projet est vraiment un exemple de vraiment une IA qui va bénéficier à la communauté et au plus grand nombre donc ça c'est super.
C'est cool. Bah écoute, Ilia, je pense qu'on a un peu traité des sujets que je voulais traiter. Est-ce qu'il y avait quelque chose que tu voulais mentionner qu'on n'a pas mentionné?
Non, je pense qu'on a donné un petit peu je peux me présenter, donner un peu une image un peu globale de ce qu'était l'intelligence artificielle. Après, juste pour ceux qui voudraient aller plus loin ou pour ceux qui sont déjà initiés sur le sujet, vous pouvez regarder ce que je fais sur la revue IA.
Je mettrai en
Je pense
description,
qu'il y a
Inch'Allah.
Ouais, il y a des choses qui peuvent être intéressantes. Sinon, on a un groupe Discord dans lequel on discute un petit peu d'IA et des nouvelles avancées, parce que c'est des domaines qui avancent assez rapidement et il y a besoin vraiment de rester un peu à la page sur ce qui se passe.
D'accord, cool. Bah écoute, on va finir par quelques petites questions, Elias. Est-ce que tu as des routines régulières, récurrentes que tu maintiens pour t'aider à progresser ou bien à maintenir ton énergie?
Ouais, j'essaye de dormir à des heures fixes. C'est quelque chose d'important. Niveau méditation, tout ça, nous, on a la prière, donc c'est pas mal. Ça permet de se poser un petit peu dans la journée. Je donne beaucoup d'importance à la lecture aussi. C'est quelque chose qui est peut-être négligé, enfin, pas que dans la communauté, mais dans notre communauté en particulier. On n'est pas des gens qui les ont beaucoup, donc ça c'est vraiment important. Et ça fait la différence en fait, jour le jour, d'un point de vue culture, tout ça, ça fait la différence. Tu vois la différence tout de suite entre quelqu'un qui lit des livres et quelqu'un qui n'en lit pas. Donc ça c'est important. Et sinon, ouais, sur l'état d'esprit, vraiment, enfin. L'idée, c'est de, quel que soit ce qu'on entreprend, de mettre de l'intensité, en fait. C'est vraiment ça qui fait la différence.
Au début, surtout, tu peux dire.
Voilà, surtout au début, d'être à fond, en fait, de se donner à fond, quel que soit le domaine, quel que soit le projet, ou la portée de ce projet ou quoi, faut vraiment mettre de l'intensité. Là, si tu parles de la revue IA à mon entourage, peut-être ils vont fuir, parce que j'ai mis tellement d'intensité au début que vraiment, ça devenait du harcèlement, en fait. Dès que j'avais un nouvel article, je l'envoyais. Ouais, ça, 5 fois à la même personne jusqu'à qu'elle le dise. Et donc, parfois, ça peut être dérangeant pour les gens autour de toi. Mais vraiment, c'est important de mettre de l'intensité dans tout ce dans tout ce qu'on fait. Voilà.
Ok, cool. Est-ce que tu as des recommandations de livres ou de, je sais pas, de podcasts ou des références que tu suis ou que tu as lues qui t'ont particulièrement marqué?
Ouais, alors moi, je lis beaucoup d'articles sur la plateforme Medium.
Ok.
Donc, c'est vraiment, vous regardez sur un peu les différentes rubriques, il y en a pour tous les goûts. Et c'est des articles qui sont vraiment inspirants parfois. Donc, ça m'aide beaucoup. Et sinon, parmi les auteurs que j'aime bien, il y a Malcolm Gladwell, pardon.
Ouais, Outliers, je l'ai lu.
Voilà, il y a Outliers, il y a un livre aussi qui s'appelle Le Point de bascule, que j'ai bien
OK.
aimé, qui montre un petit peu comment les épidémies se créent, enfin les épidémies dans le bon sens, comment influencer
OK.
les gens, et enfin essayer de créer faire des grandes différences en fait,
Ouais.
avec ce qu'on a. Et un peu dans le même sujet, il y a la loi de David et Goliath, qui est une histoire du Coran aussi. Donc c'est bien d'avoir un autre point de vue sur l'histoire. Et c'est un peu un livre qui va expliquer un peu comment gagner quand on est David et qu'on doit combattre Goliath.
Ok, c'est aussi de Maxime Gladwell celui-là?
C'est Max, ouais, c'est Gladwell aussi,
Ok.
ouais.
Ok, cool. Bah écoute, je mettrai tout ça en description, Inch'Allah. Merci beaucoup.
Super.
Dernière question. Yes, si un éditeur souhaite suivre ton travail, bah, du coup, il y a la revue IA.fr. Est-ce qu'il y a d'autres moyens et est-ce qu'ils peuvent te contacter s'ils ont une question?
Ouais, je suis joignable sur LinkedIn. Je communique
Ok.
beaucoup sur ce réseau, donc ça, ils peuvent juste m'envoyer un message. Et pareil, je communique pas mal sur LinkedIn et Twitter, donc ça pourra se faire là-bas.
Super, bah écoute, Yes, je te remercie beaucoup pour ton temps, c'était hyper intéressant. C'est un sujet, je pense, on doit être un minimum formé ou un minimum éduqué par rapport à ce sujet. En tant que musulman, il y a, comme on en a parlé, il y a beaucoup de problématiques d'éthique, mais pas que. Enfin, il y a aussi, je pense que dans le monde du travail, on sera de plus en plus entouré d'IA. Donc, il faut un peu comprendre ces domaines-là, c'est important pour nous, pour nos enfants, pour tout le monde, d'être à la page sur ces sujets-là. Et pourquoi pas réfléchir à des applications qui soient bénéfiques pour la communauté, pour le monde, comme l'application Tertil dont on a parlé.
Ouais, Inch'Allah, c'est super. Et si il y a des gens dans l'autre gens qui ont des projets et sur lesquels on pourrait travailler ensemble ou quoi, ce sera avec plaisir.
Je te remercie beaucoup,
Et on
Yes.
peut.
N'hésitez pas à le contacter, hein. C'est un hard worker, il travaille dur.
Ouais,
Allez, Yes, je te dis à bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.
à bientôt. Salam alaikum.
Si cet épisode t'a plu, je te propose de le partager à 3 personnes de ton entourage, à noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcast et à invoquer Dieu pour qu'Allah mette la baraka dans cette initiative. À bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.